Un coup d'œil à la bourse, repartie à la baisse aujourd'hui à Paris, -0,46% pour l'indice CAC 40, à un peu plus de 5000.
Radio G. www.radio-g.fr.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio G 101.5 FM, bienvenue dans l'émission La Musgueule, votre émission estivale du lundi au jeudi présentée par Kelly. Salut Kelly.
Salut.
Il y a aussi Émile, salut Émile.
Salut.
Alors normalement il y a Annie qui est là, mais bon aujourd'hui elle n'est pas présente, et il y a Valentin, moi-même. Alors aujourd'hui Émile va nous faire une petite chronique sur Jean-Pierre Frangin.
Fanguin.
Ensuite, nous écouterons une chronique sur les crop circles réalisée par moi-même. Après, nous aurons une chronique de Julien Védrenne sur le cinéma et un philosophe. Puis, nous finirons par un petit jeu réalisé par Émile. On espère que ça va vous plaire et merci d'être à l'écoute.
Et du coup, on va commencer en musique, comme très souvent. J'ai choisi le son que j'aime bien. Enfin, c'est un son que j'écoute souvent en ce moment. Je l'ai découvert en regardant la série Ozark. Le son ouvre et ferme un épisode de la saison 2. Donc la série, elle est récente, mais le titre, il date de 68. On écoute tout de suite Wichita Lineman de Glen Campbell. C'est tout de suite dans La Musgueule.
I'm a lineman for the county, and I drive the main road, searching in the sun for another overload. I hear you singing in the wire, I can hear you through the whine. And the Wichita lineman is still on the line. I know I need a small vacation, but it don't look like rain. And if it snows, that stretch down south won't ever stand the strain. And I need you more than want you, and I want you for all time. And the Wichita lineman is still on the line. And I need you more than want you, and I want you for all time. And the Wichita lineman is still on the
C'était Glen Campbell. Oh, c'était quand même joli, non? Ça vous donne pas envie de partir en vacances?
Si, un peu,
rouler,
ouais, carrément.
Rouler comme ça pendant des heures sans savoir vraiment où s'arrêter. Voilà. C'était mon petit coup de cœur de la journée.
Du coup, c'est à mon tour, donc je vais vous faire une petite chronique. Enfin, j'ai préparé une petite chronique sur Jean-Pierre Fanguin. On a parlé plusieurs fois dans l'émission, notamment hier.
Oui, dans le fameux quiz.
Ouais, c'est ça.
La question, elle est vite répondue
c'est
pour
ça,
les auditeurs.
Tout à fait. Donc, en gros, il y a 2-3 mois, il y a un ami qui m'a contacté pour essayer de me faire rentrer dans une espèce de société de trading qui vend des formations. Et ayant passé sans doute plus d'un tiers de ma vie sur l'ordinateur et sur Internet, j'ai senti un truc pas clair. J'ai fait quelques recherches Google. Et j'ai eu ma réponse, c'était une belle douille. Donc je tente de lui expliquer un peu le truc, genre comment ça se passe, enfin pourquoi il risque plus de perdre d'argent que d'en gagner. Mais il veut pas comprendre, j'ai beau expliquer, il veut pas comprendre, donc à un moment je laisse tomber. Et quelle ne fut pas ma surprise en découvrant il y a quelques semaines la vidéo qui sort et qui a enflammé la toile un petit peu, on peut dire ça comme ça.
Complètement même.
Vous l'avez sans doute vu tourner sur les réseaux, pardon. On en a déjà parlé dans l'émission et c'est la vidéo de Jean-Pierre Fanguin et son gimmick La question est vite répondue qui vous propose de devenir riche avec votre téléphone. Mais quelle est donc cette méthode pour devenir riche? Et ben moi aussi je veux plein de sous, je veux pouvoir me déplacer en véhicule de luxe et ne plus prendre le bus pour ne pas faire pitié. Bon, c'est pas nouveau, ça a déjà pas mal été dit, mais comme vous en doutez, son secret est basé un peu du vent. Et derrière tout ça, en fait, c'est une entreprise qui s'appelle Melius qui est basée au Qatar, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et qui en fait propose des programmes de formation pour le trading. Jusque là, il n'y a rien d'alarmant, quoi. Pourquoi pas.
Encore que.
Et en gros, Melius propose différents packs allant de 175 à 900 euros, plus un abonnement mensuel aux alentours de 80 euros par mois, du coup. Arrivé ici, il y a deux opportunités qui s'offrent à vous. Soit vous vous lancez dans le trading grâce aux connaissances acquises par les formations, soit vous devenez vous-même ambassadeur entre guillemets de Melius pour vendre des formations à votre tour. En trouvant de nouveaux clients, vous prenez une commission sur les formations qu'ils achètent et qu'ils vendent. Et en fait, le tout, ça forme un système pyramidal. Donc forcément, vous êtes tout en haut, vous avez énormément de revenus,
plein de thunes,
et vous êtes tout en bas, vous galérez. Ça s'appelle du marketing relationnel. C'est pas nouveau, il y a des entreprises comme Tupperware ou Thermomix qui l'ont fait ou qui le font toujours d'ailleurs. Mais alors du coup on peut se demander quel est le problème là-dedans. En gros, premièrement, le trading, déjà on s'improvise pas trader du jour au lendemain parce qu'on a fait ES ou une carrière dans le genre, ou parce qu'on a regardé The Big Short. Et ça demande quand même des connaissances économiques assez poussées et plusieurs années d'études. Et d'autant plus qu'en plus, rien ne prouve que les formations vendues sont des bonnes formations. Pour un peu, c'est vraiment, vraiment pas ouf. Et ensuite, il y a en fait aussi le fait que ce genre d'entreprise vise notamment les jeunes qui ne connaissent absolument rien en trading. Et on peut se poser la question aussi, en voyant le prix des formations, qu'au final, il y a quand même, enfin, la plupart du temps, il y a quand même très peu de jeunes qui peuvent se permettre de lâcher quasiment 100 euros par mois, plus des grands 200, 300, voire 1000 euros pour des formations. Et en fait, souvent, c'est mon point de vue, mais quand on voit quelqu'un qui court après l'argent et qui en veut beaucoup, rapidement et facilement, c'est souvent quelqu'un qui, justement, manque d'argent et veut tout faire pour sortir de sa situation. Donc la situation financière des adhérents peut un peu virer au cauchemar. Surtout qu'en plus, rien ne garantit que vous allez réussir à gagner de l'argent avec ça. Donc à un moment, quand vous allez devoir payer 200 euros par mois, ça va être compliqué. Mais Jean-Pierre, derrière ses airs un peu de simplet, entre guillemets.
Bon, moi, c'est ça qui a fait le buzz aussi, je pense.
C'est ça, ouais, carrément. Je trouve que moi, il est justement loin d'être bête, parce qu'il a réussi à créer un buzz, autour de sa vidéo, avec un peu d'autodérision, un peu d'humour. Et direct, c'est devenu viral sur Twitter et un peu partout.
Il y a eu pas mal de mèmes, je crois.
Ouais, exactement, ouais. Et en fait, lui, son but, c'était juste toucher un maximum de personnes pour vendre un maximum de formations. Et comme il y a énormément de jeunes qui se font avoir par ce genre de site, je pense qu'il a dû se prendre un bon billet par rapport à ça. Et surtout que la plupart des jeunes, en fait, qui se lancent là-dedans, ne se rendent pas compte de la supercherie du truc.
Alors que pourtant, c'est assez gros quand même.
Bah ouais, c'est ça. Et surtout qu'en plus, en 2-3 recherches Google, on se rend compte un peu l'étendue du bordel. Et un petit dernier rappel, c'est que rappelez-vous que sur Internet, quand on vous propose des moyens faciles de gagner de l'argent
ou qu'il y a des promos beaucoup trop belles pour être vraies, des moins 75% sur un sac Chanel.
On est en plein dans les soldes en plus, donc bah, on est plein dans le thème.
Renseignez-vous, vraiment, faites deux, enfin, pendant 10 minutes sur Google, recherchez, ça vous paraît bizarre. Et en général, en même pas 10 minutes, on trouve notre réponse si c'est une douille ou pas, et si on veut vous la mettre à l'envers. Donc en attendant, pour revenir à mon pote, j'avais raison, et ça fait plaisir.
Merci Émile. Valentin, je crois que c'est toi qui prends la suite, tu vas nous parler des crop circles.
Ouais, c'est ça, j'ai préparé une petite chronique sur les crop circles, parce que c'est quelque chose qui m'a intéressé cette semaine, je me suis un petit peu renseigné sur le sujet, donc voilà.
On écoute ça tout de suite.
Théorie du complot, tout ça.
Les extraterrestres.
Un extraterrestre.
Sont-ils?
Ils vont nous manger.
Venus sur la Terre afin de dessiner des petits cercles dans les champs. Ça serait bizarre.
Oui, c'est bizarre quand même.
Mais c'est possible.
Vachement bizarre quand même.
C'est la bande-annonce d'un nouveau blockbuster ou t'es en train de faire ta chronique là?
Reprenons depuis le début. Que sont réellement les crop circles? Sont-ils d'origine humaine ou extraterrestre? Comment démêler le vrai du faux? Nous allons voir ça maintenant. Les crop circles, ou cercles de culture en français, sont de grands dessins que l'on trouve le plus souvent dans les champs de blé et représentent généralement des formes géométriques qui sont visibles depuis le ciel. On attribue même la première création d'un crop circle au diable lui-même dans le comté de Hartford en Angleterre. Si les premiers crop circles connus ont été aperçus vers la fin des années 60, leur origine et leur signification exacte restent jusqu'à présent un mystère. Ou pas. Vous le savez, pour pouvoir trancher sur la véracité d'un propos, il nous faut des preuves. Et sur ce sujet, celles-ci nous font cruellement défaut. Les crop circles sont-ils des créations d'origine humaine ou viennent-ils d'une civilisation extraterrestre ou d'êtres surnaturels? Commençons par le commencement. Le 19 janvier 1966, George Peddles, un fermier australien, affirme avoir vu un aéronef décoller d'un marécage voisin. Rendu sur place avec des amis, il découvre ce qu'ils qualifieront de nid de soucoupe. En fait, un aplatissement en cercle de végétaux. D'autres seront découverts par la suite dans le voisinage. L'histoire de ces nids de soucoupe va inspirer Doug Bower, un fermier de la région d'Avebury. Avec un ami proche, Dave Shirley, il décide en 1978 de recréer les leurs. Il se lance donc clandestinement dans la création d'une série de dessins dans les champs de leurs voisins, que l'on baptisera dès lors les crop circles. Mais le phénomène dépasse le simple canular. Aucun témoignage ne vient étayer la présence de crop circles avant les années 60. D'abord discret, il faudra attendre les années 80 avant que ce phénomène explose. Il devient alors mondial dans les années 90. D'abord de simples cercles, ils deviennent des pictogrammes, puis des dessins géométriques à forte complexité. Certaines créations s'étalent sur des centaines de mètres. Bien différents que ceux des deux premiers fermiers farceurs d'Avebury. On relève dans ces dessins de plus en plus de témoignages de phénomènes étranges et semblent difficilement reproductibles par des êtres humains. Tout d'abord, ils sont parfaits. Vu du ciel, le tracé est nickel, sans accroc. Mais surtout, ces dessins seront tous empreints de ce qu'on appelle une beauté mathématique. Rapport de taille, d'angle, tout est harmonieux. On peut même y trouver le nombre d'or ou encore la suite de Fibonacci. De plus, le blé semble plié de façon tellement parfaite que ce ne serait pas réalisable par des humains. Des photos prises sur le sol pourraient révéler des orbes lumineuses, des mouches se retrouveraient comme figées sur le champ, on retrouverait sur des cercles de culture un niveau d'énergie radiesthésique plusieurs milliers de fois supérieur à celle des environs. Beaucoup de personnes disent même ressentir des sensations étranges sur place, comme une énergie. Ils avanceraient même que ces crop circles seraient là pour soigner la Terre et les humains. Mais le problème, ou même les problèmes, car il y en a plusieurs, c'est que tous les arguments avancés par les personnes croyant à une création non humaine de ces crop circles sont sans preuve réellement fondées. Mais nous savons que grâce à toutes les caractéristiques attribuées par ces personnes à un vrai crop circle, certains spécialistes disent pouvoir reconnaître un vrai crop circle d'un faux. J'ai donc suivi l'expérience d'un homme qui a décidé de fabriquer lui-même un crop circle avec des amis. déjà pour voir si c'était réalisable, puis pour voir ce que ces spécialistes pouvaient dire sur celui-ci, en pouvant totalement réfuter leur argument en faveur d'un crop circle extraterrestre, sachant qu'il l'a réalisé lui-même. Et il s'est donc avéré que non seulement c'est facilement réalisable avec un peu de technique et une dizaine de personnes en seulement une heure et demie. Il s'est avéré aussi que tous les spécialistes qui ont accouru pour voir ce crop circle ont dit que oui, c'était un vrai, pour des tas de raisons infondées, puisque nous savons que ce n'en est pas un vrai. La plupart des visiteurs disaient même ressentir beaucoup d'énergie et pensaient eux aussi que c'était l'œuvre d'une autre forme de vie que la nôtre. Seul un scientifique suivant une méthode nommée VECA a pu déterminer en seulement 5 minutes que ce crop circle était une création humaine, énonçant exactement comment il a été réalisé et dans quel ordre. La méthode VECA, créée par Jill Munch, qui est un protocole rigoureux pour déterminer l'origine d'un crop circle, semble alors être la plus à même de fonctionner pour démêler le vrai du faux. Puisque les méthodes des autres spécialistes se sont révélées être fausses, puisque le crop circle était un faux alors qu'il disait qu'il était vrai. De plus, la méthode VECA, qui semble être la plus rigoureuse et la plus juste, a démontré que tous les crop circles analysés jusqu'à présent ont été créés par l'homme. Pour conclure, on ne peut donc pas dire que tous les crop circles sont à 100% réalisés par des humains, mais on ne peut en aucun cas confirmer qu'un seul crop circle fut réalisé par des êtres surnaturels ou extraterrestres, car les arguments avancés pour sont non scientifiques, sans rigueur et sans fondement.
Et d'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, il y a un film qui s'appelle Signe de Night Shyamalan, j'arrive jamais à le dire. Et ça parle de ce genre de phénomène, je sais pas si vous l'avez vu.
Non, j'ai pas vu,
absolument pas.
Voilà. En tout cas, merci Valentin pour cette petite chronique. Vous êtes toujours dans votre émission estivale La Muse Gueule sur Radio G. On va faire une courte pause musicale avec un morceau d'un groupe qui vient de Rennes et qui s'appelle Baston. On va écouter un morceau extrait de l'album Primate, sorti en 2019 sur le label All In Banana Records. D'ailleurs, c'est le titre qu'on va écouter. Il s'appelle Primate aussi. C'est la piste numéro 2 de l'album. Ça tue et en plus, ça passe au festival Lévitation qui se passe au Quai à Angers le 9 et le 10 octobre prochain. Donc si vous kiffez ce qui va suivre et si vous êtes dans le coin, ne ratez pas cet événement, les places sont déjà en vente. On écoute tout de suite Baston dans La Muse-Gueule. Vous écoutiez Baston à l'instant sur Radio G dans la Musgueule. Pour la suite, on va parler cinéma et philosophie avec la chronique de Julien Védrenne. On écoute ça tout de suite.
Très chère Kelly, tu le sais mieux que moi, le confinement est du passé et il faut sauver la culture. Vaste programme qui veut à la fois tout dire et rien dire. Je pose donc la question, et si, plutôt que de sauver la culture, nous tentions de nous élever par la culture et de lui redonner un C majuscule auquel elle a le droit? Je dis oui, mille et une fois oui. Alors, je te propose de partir à la découverte d'un philosophe russe adapté divinement au cinéma par Cristi Puiu, réalisateur roumain et remarqué en 2005 avec La mort de Dante Lazarescu. Le film que je te suggère d'aller voir est donc l'adaptation réussie de trois entretiens sur la guerre, la morale et la religion de Vladimir Sergeïevitch Soloviev, 1853-1900, un ouvrage posthume sous forme de dialogue entre des personnages qui abordent des thèmes que l'âme slave aime à décortiquer. Le recueil peut se trouver chez l'éditeur confidentiel, par ailleurs spécialiste de théologie et de spiritualité, Ad Solem. Mais revenons à cette adaptation. Durant les plus de 200 minutes de ce film élégiaque, deux hommes et trois femmes, hôtes d'un vieux comte invalide qui reste cloîtré dans sa chambre, s'essaient à la joute verbale avec verve, cynisme et une civilité courtoise. L'histoire se déroule à la toute fin du XIXe siècle. On y cause guerre des Boers en Afrique du Sud, sans trop se douter qu'en Russie, la révolution va faire vaciller doublement en 1905 et 1917, l'Empire. On écoute les envolées lyriques d'Ingrida, pour qui la guerre est une nécessité et pour qui les soldats sont quasiment les égaux des saints monastiques. À ce sujet, la voilà qui aborde des notions autour du bien et du mal.
Mais à présent, j'aimerais employer un tout autre chemin avec vous, cher Nicolas. Vous êtes prêt à me suivre?
Je vous suis.
Donc revenons à nos histoires, à l'histoire de nos deux ermites. Mm-hmm. Donc à Alexandrie, je vous l'accorde. Ce n'est pas ça qui m'intéresse là. Donc nous gardons le même cheminement, la même conclusion. Mais nous enlevons là l'essentiel, à savoir l'existence de Dieu et du diable. Donc nous partons d'un tout autre postulat. Dieu n'existe plus, le diable non plus. Ce qui m'intéresse ici, si nous concédons que le mal vient donc de l'intérieur de l'homme, c'est lequel de ces deux hommes aurait initié ce chemin, ce parcours, ces trois jours de débauche à Alexandrie, à votre avis?
Et puis, on souhaiterait ne pas écouter la diatribe raciste d'Edouard qui tient à installer, quitte à forcer sa logique, le russe caucasien en Europe et qui ne veut pas être assimilé au jaune. On souffre de l'échange théologique entre Madeleine, assurément naïve et novice en la matière, et Nikolaï, fin lettré et par conséquent mystificateur de la mystique. Enfin, on apprécie la diplomatie à la Talleyrand d'Olga. Et pendant que tous ces gens dînent, boivent et discutent sur l'égalité des hommes, enfin, de certains hommes, on observe István les servir avec bienveillance. D'ailleurs, on aimerait l'entendre sur le sujet István, même si l'on sent poindre un respect de classe servile. Le film, lui, se regarde comme l'adaptation de Guerre et Paix de Sergueï Bondtchartchouk ou du Don paisible d'un autre Sergueï, Gerasimov, c'est-à-dire en acceptant une certaine lenteur et un certain statu quo. Les discussions sur fond de raison, de conscience, de morale, de bien, de mal, d'antéchrist, en un mélange de français et de russe, s'écoutent de l'intérieur ou en coulisses, et l'on ne peut totalement exclure l'argutie de la controverse de Valaloïde. On pense parfois à Gosford Park pour la compréhension du fonctionnement d'une riche propriété. Tout ça a un fort goût de Dostoïevski, matinée d'interrogation à la Pierre Bezoukhov, l'un des personnages de Guerre et Paix de Tolstoï. À une exception notable, l'absence de la franc-maçonnerie dans tous ses discours. Alors, tu me diras que tout ça est bien pédant, et je m'empresserai de te répondre par la négative. J'ai lu quelque part que ce film, entre autres défauts, avait contre lui sa vanité totale qui giclait à chaque instant. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est avant tout bien méconnaître l'âme slave et le peuple russe que d'affirmer ça. Il faut accepter d'écouter ce qui se dit et s'efforcer de le comprendre, la définition même de l'humanisme. Le titre du film est assez difficile à prononcer, Malmkrog. Le réalisateur, c'est Kristi Puiu, sacré cette année, comme par hasard, meilleur réalisateur à Berlin. Et si vous êtes curieux, les 400 coups à Angers le projettent sur grand écran samedi et lundi prochain à 16h. Il faut sauver la culture, et c'est plutôt chouette quand la culture nous élève. Alors, chère Kelly, prends le temps d'écouter avec nous ce chant et déjà tu auras fait un premier pas vers la compréhension de ce qu'est l'âme slave. À bientôt.
Restons un peu dans l'art maintenant, parlons pinceau, parlons sculpture. J'ai réuni quelques œuvres qui ont été vendues aux enchères au cours de l'année 2019.
Ah oui, c'est le moment du jeu.
C'est ça, exactement, c'est le moment du jeu. Et en fait, un peu à la manière du juste prix, vous allez devoir trouver la somme exacte, ou du moins, vous en rapprocher un maximum.
Moi, je préviens, je suis un petit peu nul à ce genre de truc, de jauge.
Pour les trucs un peu
c'est de l'art, normaux, on sait jamais.
Bon, les tableaux, ça peut...
Vous envoyez trois essais chacun pour trouver le prix exact. Pour les œuvres à plus de 50 millions de dollars, il y aura une petite marge de 5 millions de dollars qui sera acceptée. Et pour le reste, ce sera une marge de 1 million. Les œuvres sont classées au hasard et je vous donnerai quelques indices si jamais vous êtes en galère.
J'espère bien.
Mais c'est à peu près en millions à chaque fois ?
Ouais, c'est que du million.
Ok,
ouais.
D'accord.
Le million.
Alors, on va commencer avec le Devolved Parliament de Banksy. Donc, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est exactement un artiste street art qui a peint, c'est une huile sur toile représentant la chambre du Parlement britannique remplie de chimpanzés, et c'est une peinture anti-Brexit. C'est une hauteur de 2,67 m et une largeur de 4,46 m.
J'avais demandé. Donc,
genre, ça va nous aider à savoir.
Bah, c'est un monumental quand même. Il doit être très grand, je pense.
Bah, 4 mètres de large.
Tu dirais combien, Valentin?
J'aurais dit. Genre, franchement, j'ai aucune notion en tableau, tout ce qui est tableau, mais.
Bah, surtout en millions, c'est vrai que c'est difficile de se projeter.
Ouais.
C'est là.
Au hasard, je vais dire 3 millions.
3 millions.
C'est déjà beaucoup.
Moi, je dirais 20 millions.
20
wow.
millions.
Bah.
Alors, je crois que c'est. Non, c'est Kelly la plus proche, mais c'est un peu plus.
Eh ben, je dirais 6.
6.
Moi, je dirais 8.
8. Ok, donc là, c'est Valentin qui est le plus proche pour le coup.
Eh bah, ben, 9.
Et vous pouvez augmenter encore un peu.
9, 10, 11, 12.
Ah bah, on a dit 3 essais.
Ah, j'avais 3 essais, j'avais pas entendu les règles.
C'est ta dernière.
Dernier mot, je dirais 11.
Moi, je dis 10, du coup.
10. Et Kelly, bien joué.
Oh la vache.
Incroyable.
Score exact, 11 millions d'euros.
11 millions.
C'était vendu 11 millions d'euros dans une galerie britannique. Si je me souviens de son nom, j'ai oublié de noter tout ça. Je suis un peu zappé. On va passer au deuxième tableau, qui est la dérision du Christ de Comabue, un peintre florentin du XIIIe siècle, fin XIIIe siècle.
On voit pas très bien sur l'image, du coup.
Ah oui, pardon. Du coup, c'est un tableau qui fait 26 cm de hauteur à peu près, pour 20 de large.
Okay.
C'est de l'art sacré, donc de l'art religieux. C'est de la peinture à l'œuf sur fond d'or sur un panneau de peuplier. Ça fait partie d'un diptyque de la dévotion composé de 8 tableaux disposés en deux volets. Le tout aurait été dispersé au 19e siècle. C'est le panneau d'en bas à gauche du volet de gauche du diptyque. Donc en gros, sur le tableau, vous pouvez voir donc Jésus au centre avec plein de personnes autour de lui sur fond doré.
Ouais, j'en ai vu plein des tableaux comme ça, c'est magnifique.
Et donc là, c'est en millions aussi.
C'est tout est en millions.
Tout est en millions.
Kate, commençait comme t'as commencé le premier.
J'ai commencé. Donc, non, c'était Kate qui avait commencé.
Non, t'as dit.
Ouais.
Attends pour moi.
Bah là, je vais dire. En vrai, je pense que c'est cher.
Il y a Jésus dessus. Il y a Jésus.
Oui, mais après, non, je pense que c'est sa date et c'est. Je pense, je dirais. Allez, 50 000.
50 000.
50 millions. Pardon, 50 millions.
Et toi, Kelly?
Non, je dirais 35
millions. 35
millions.
Effectivement, c'est Kelly qui s'en rapproche et c'est un peu. C'est moins de 35 millions.
Ah oui, tiens, j'aurais pensé que c'était beaucoup plus cher.
Du coup, c'est à toi, Valentin, ou c'est.
Ah, c'est à moi.
Comme vous voulez, là, vous pouvez
Bah, 25 millions.
25. Et toi,
moi,
Kelly?
Moi, je dirais 22.
22. Valentin s'en rapproche très très fortement. Donc, et en vrai,
en mode dernier
comme il y a là. Il est à moins d'un million près.
Et donc, bah, moi, je dirais 30.
Ben non, j'ai dit 25 millions.
Dit 25
donc
millions.
C'est soit 25,
ah mince, j'avais pas,
c'est
j'avais
soit
pas.
25 millions 500 ou 24 millions 500 quoi.
Allez, dis-nous la réponse.
C'est 24 millions et 200 000 euros.
Ouais.
C'est précis.
Toujours. J'ai même pas dit les dimensions. Ah si, j'ai dit les dimensions tout à l'heure. Pardon.
Ouais.
Ensuite, on va passer à la peinture. Ça a pas de nom, mais c'est Pierre Soulages. C'est peinture 200 x 162 cm, 14 mars 1960.
C'est de l'abstrait.
Donc c'est de l'abstrait, fond blanc avec, c'est mi-fond blanc, mi-fond noir, avec des petites touches de doré ou cuivre sur le noir. Ça mesure, bah du coup 2 mètres par 1,62 m. C'est de l'huile sur toile. Et à votre avis, combien ça a été vendu?
Alors c'est vraiment contemporain. Hein,
si je peux vous donner un petit indice, on se rapproche un peu du premier.
J'ai déjà oublié.
Alors.
Non, moi je dirais 2 millions.
2 millions?
Moi je dirais. 8 millions.
Valentin est pas mal proche.
Je me souviens même plus, Banksy, c'était combien?
Je sais plus.
Vous allez pas m'aider. 4 millions.
4 millions.
9 millions.
Vas-y, en vrai, je te donne le point, Valentin, parce que c'est 9 millions 6.
Ah oui, bah, normal.
Et franchement,
Pierre Soulages.
Pierre Soulages. On va passer en gros là.
Claude Monet, alors lui, ça vous parle
voilà. Alors, soit Monet, soit Jeff Koons, mais on peut parler de Monet. Donc, Claude Monet, c'est un tableau qui s'appelle Meule. Ça fait partie d'une série de tableaux où il peignait des meules de foin. C'est en dimension, c'est une hauteur de 72 cm par 92 de large. C'est une huile sur toile de l'impressionnisme. Ça fait partie de la série des meules, comme je l'ai dit. Et c'est la première fois qu'un tableau impressionniste dépasse les 100 millions de dollars à la revente aux enchères.
Donc il a dépassé.
Mais moi, je vous demande évidemment le prix en euros, sinon ce serait trop simple.
Ah, je sais pas du tout quoi.
200 millions.
Ah non, ouais, non.
Non, mais je ne sais pas, moi je vais faire Joker pour ce.
Joker?
Ouais, Joker.
Ouais, je dirais 150 millions.
150 millions, ouais. C'est pas mal moins.
Pas mal moins.
Bah 100 millions déjà, c'est bien.
Ah oui, mais attends, un dollar c'est plus gros qu'un euro, donc c'est beaucoup moins.
80 ouais. millions.
Mais non. Une petite dernière réponse, Valentin, peut-être.
C'est toi qui vas trouver.
T'étais pas loin tout à l'heure.
120 millions. J'ai pas aucune idée.
Et non, c'était petite somme de 98 millions d'euros et 900 000 euros.
Qu'est-ce que c'est qu'un billet de 98 000 ?
C'est pas grand-chose, on le trouve en traversant la rue.
Facile.
Et on peut se finir avec le lapin de Jeff Koons.
Oui, il y en a même encore deux.
Oui, il y en a même encore deux. Mais donc, le lapin de Jeff Koons, c'est un lapin en acier inoxydable.
Sculpture.
Ouais. En forme de lapin gonflable. Et sa vente aux enchères a battu le record de vente pour un artiste vivant. Sachant qu'il fait une hauteur de 1 mètre pour une largeur de 48 cm.
Mais c'est pratique à mettre dans le jardin, en tout cas en déco.
Ça fait un beau nain de jardin, ouais.
Combien t'as dit en mètres ?
Il fait 1m04 de hauteur et 48 cm
on
de largeur.
On essaie de le jouer en une fois ?
Ouais, allez, carrément.
T'as une idée ou pas, Valentin ?
Est-ce que vous voulez un indice pour, pour le prix ?
Une fourchette.
Déjà, il y a bien 7 zéros derrière le chiffre. Et c'est à 8 zéros dans la tranche haute.
Je sais pas du tout. C'est trop dur pour moi.
Je sais pas du tout. Je dirais 100 millions. Allez.
100 millions ?
Et moi, c'est je dis 60 millions.
Ah bah, vous êtes tous les deux dans la tranche, mais dans les extrêmes de la tranche. Vous êtes chacun un extrême.
80 millions.
80.
Bon, c'était mon dernier mot, moi, je sais pas.
Même pas une petite... essayer d'affiner un peu, là.
75 millions.
Et non, c'était 81 millions d'euros.
Je suis dessus.
Ça fait pas cher le nain de jardin, c'est pas mal.
Et on fait le dernier rapidement.
Allez,
parce que
carrément.
On arrive donc, vraiment à la fin.
Parc des Princes de Nicolas de Staël, qui a été peint en 1952. Ça fait 2,50 m de haut pour 3 m de large. C'est une huile sur toile faisant partie d'une série de 6 tableaux. C'est de l'abstrait. Et ça représente un match de foot entre la France et la Suède au Parc des Princes.
Ah oui.
De Staël aurait été subjugué par l'intensité du jeu et aurait passé la nuit à traduire cette expérience sur sa toile.
Et c'est bien abstrait pour le coup.
Ouais.
Et bah tu vas nous dire peut-être directement combien, parce que je crois qu'on n'a pas le temps.
Oui, effectivement.
Dommage.
Et c'était. Là, ça va, ils sont restés calmes, ils sont restés à 20 millions d'euros.
Ok.
Donc pour un tableau qui fait quand même 2,5
mètres. Par rapport à
tous
les autres qui coûtaient bien plus cher, oui.
C'est honnête. Puis moi, j'aime bien le tableau, donc assez coloré.
Merci Emile pour ce juste prix.
Ouais, merci.
Du coup, ça va être l'heure de se quitter. Valentin, tu voulais faire cette petite conclusion magnifique.
Oui, bah, du coup, j'espère que vous avez passé une bonne émission. On se retrouve la semaine prochaine, donc lundi, pour la Musgueule. Et bah, c'est tout.
Et puis le podcast est à retrouver
et voilà,
en ligne.
Donc, le podcast, vous pouvez retrouver sur www.radio-g.fr ainsi que tous les liens des différentes émissions. Donc voilà, c'était la Musgueule. Vous êtes sur Radio G. À bonne écoute.
Et puis on se retrouve donc lundi prochain. On vous souhaite un très bon week-end. Salut.
Bonne soirée. Salut. Yo, yeah.